La Galatrice, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Abondamment. Amen.
Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes connectés sur l'heure de la vérité. L'heure de la vérité, c'est votre émission chrétienne où la vérité biblique uniquement est proclamée. Nous ne sommes pas là pour vous parler d'une religion. Nous ne sommes pas là pour vous parler d'un système religieux. Nous ne sommes pas là pour vous prêcher les dogmes d'une religion. Parce que la religion ne sauve pas. Les dogmes des religions ne sauvent pas. Il n'y a que Dieu seul qui sauve. Et il n'y a que la parole de Dieu également qui sauve. Donc, nous sommes là pour partager avec vous les vérités bibliques qui seules peuvent vous affranchir. Car ce n'est pas en vain que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus n'a pas dit que vous connaîtrez une religion, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité est dans la parole du Dieu vivant, amen, dans la Bible. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations dans le merveilleux et magnifique nom du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur soit vraiment béni pour ce privilège qu'il nous accorde une fois de plus, non seulement d'être parmi les vivants, mais de passer un peu de notre temps dans sa sainte présence. Car ce n'est pas en vain que vous êtes à l'écoute. Parce qu'une fois de plus, je suis convaincu que Dieu va faire beaucoup de choses dans vos vies, vous qui êtes à l'écoute à partir de ce moment-ci. Comme d'habitude, nous vous invitons tout simplement, non seulement à être attentifs, mais surtout à avoir un stylo et sur quoi noter. Le plus important, c'est qu'après vous puissiez vérifier tous les versets bibliques pour être sûr que ce que vous écoutez est vrai et exact. Pour vous servir, je suis, je reste, je demeure toujours votre très humble serviteur, le pasteur Rodrigue Genji. Et bien entendu, son excellence, sa majesté, l'admirable conseiller, le Seigneur Jésus-Christ, a un regard très très attentif et très très vigilant sur tout ce qui se passe. Et Je suis dans ce studio avec le frère Yannick, à qui je vais passer la parole afin qu'il puisse vous adresser ses salutations. Frère Yannick, une fois de plus, sois la bienvenue dans ce studio et que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment.
Amen. Oui, je profite pour cette occasion pour saluer tous les fidèles auditeurs de l'heure de la vérité. Que le Seigneur vous comble, soyez toujours connectés et pour être guéri de cette maladie chronique que beaucoup de gens ne savent pas. Et cette maladie n'est autre que la maladie du manque de connaissance. Car cette maladie est plus que le sida qu'on parle chaque jour. Soyez connectés pour vraiment être guéri de cette maladie. Que Dieu vous bénisse grandement. Amen.
Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Selon ce qui est écrit dans les saintes écritures. Et j'étais également à dire que tous ceux-là qui nous ont envoyé les messages, même après l'émission passée, de la semaine passée, j'avais dit, les messages nous sont parvenus et nous avons pris cela au sérieux. Et nous avons prié, et parce qu'il y avait des sujets de prière dans ces différents messages. Je disais tantôt que ceux qui nous ont envoyé des messages, même après l'émission, nous avons lu ces messages. Je pense à Roger, qui a demandé que l'on prie pour lui et sa famille. Ce message nous est parvenu, nous avons prié pour lui et sa famille. Allô? 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 Cet auditeur, malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Je disais tantôt que ceux qui nous ont envoyé des messages, mais après l'émission, les messages nous sont parvenus. Je pensais à Roger qui a demandé que nous prions pour lui et ses amis. Et il y a aussi un message qui n'avait pas de nom, mais le numéro c'était le 70-61-63 qui demandait que l'on prie parce qu'il était malade. Et Jean-Pierre aussi. Allô? Allô? Et Jean-Pierre aussi qui avait demandé que l'on prie parce qu'il avait des problèmes avec sa femme. Ce que nous avons fait, d'ailleurs que nous allons continuer à le faire, selon que nous l'avons promis, que nous allons prier pour tous ces auditeurs qui ont des problèmes et qui voudraient bien que nous prions. Et nous allons prier jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Nous allons continuer à nous entretenir sur ce sujet très intéressant qu'est le mariage. Et un petit rappel pour ceux-là qui n'étaient pas à l'écoute, ou bien pour ceux-là qui n'avaient pas saisi certains éléments. Allô? Nous allons continuer à nous entretenir sur ce sujet très intéressant qu'est le mariage. Et un petit rappel, je j'étais en train de le dire, nous avons vu que si les motifs qui nous poussent à nous marier ne sont pas bons, nous allons aussi faire un mauvais mariage. Le choix, je voudrais dire, la raison qui nous pousse à nous marier pouvait déterminer aussi si nous allons avoir un bon mariage ou pas. Et parce que parfois les motifs qui poussent les gens à se marier ne sont pas du tout bons. Surtout quand ces motifs sont des motifs principaux. Par exemple, il y a des gens qui se marient pour des enfants, se marient juste parce qu'ils veulent une femme qui va préparer à manger, laver les habits. Et beaucoup qui se marient même juste parce qu'on a tellement mis la pression sur eux en disant, mais qu'est-ce que tu attends pour te marier? Et pour satisfaire ceux qui sont en train de mettre la pression, certains parents qui vont jusqu'à dire, j'ai besoin de petits-enfants. Et tout cela, parfois, pousse les gens à se marier. Tout cela, c'est bien. Le fait de se marier pour donner des petits-enfants à nos parents, de se marier parce qu'on voudrait des enfants, quelqu'un qui va entretenir notre maison, et ainsi de suite, tout cela, c'est bien, ça fait partie du mariage. On ne peut pas parler de mariage sans parler de ces choses. Mais lorsque ces choses prennent la première place, c'est qu'il y a un sérieux problème. Oui, c'est l'amour qui doit être au centre, qui doit prendre la première place. On doit s'engager dans les liens du mariage tout simplement parce qu'on a aimé quelqu'un et on a décidé de faire sa vie avec cette personne. Oui, parce que Dieu est amour. Et Dieu qui est l'auteur du mariage est amour. C'est lui qui a béni le premier mariage dans la Bible. Et donc l'amour doit être au centre du mariage. C'est pour cette raison qu'avant de s'engager, on doit se demander qu'est-ce qui me pousse à me marier. Si ce n'est pas parce que au fond de votre cœur, vous êtes convaincu que vous aimez cette personne, vaudrait mieux encore mûrir longuement votre décision avant de vous engager. C'est très très important. La dernière fois, nous avons également vu que le divorce et le remariage sont condamnés par la parole de Dieu. Nous avons lu cela dans l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du premier verset au verset 12, et dans Romains, chapitre 7, les trois premiers versets, et aussi 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 10 au verset 12, qui condamne le divorce et surtout le remariage. Il peut arriver que les gens se divorcent pour de multiples raisons, qui peuvent être même raisonnables et valables aux yeux de Dieu, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se remarier, selon les saintes écritures. La Bible préconisait la réconciliation. Oui, la réconciliation. C'est ce qui reste à ceux qui se sont séparés, s'ils veulent encore penser au mariage. Et nous allons continuer. Et avant de continuer, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, pour être un peu équilibré, parce que lorsqu'on parle d'un sujet, on doit essayer d'être équilibré, en essayant de dire tout ce que la parole de Dieu dit concernant ce sujet. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, où le Seigneur Jésus-Christ va également répondre à la préoccupation de certaines personnes concernant le mariage. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ce qu'il va dire à partir du verset 12. Oui, à partir du verset 12, que le frère Yannick peut lire pour nous tous, ou bien particulièrement le verset 12. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19.
Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes uniques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Parole du Seigneur.
Amen. Nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler des eunuques. Les eunuques, ce sont ceux-là qui, en réalité, ont été castrés et qui ne pensent pas du tout au mariage. Oui, parce qu'ils ne peuvent plus procréer et, par conséquent, ils n'ont pas tellement la tête sur ce sujet qu'est le mariage. Et le Seigneur Jésus-Christ va dire qu'il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Donc il y a les gens qui naissent vraiment eunuques. C'est-à-dire, ils ne pensent pas au mariage. Ils sont nés avec cela. Autrement dit, on peut dire quelqu'un qui est né avec le don de célibat. Oui, autrement dit, en quelque sorte. Et il va également continuer en disant, il y a ceux qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a ceux qui sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. C'est pour dire que quoi? Ce n'est pas parce qu'on est en train de parler du mariage que ça veut dire forcément que tous les hommes sont obligés de se marier. Oui, tous les hommes ne sont pas obligés de se marier. Il y a dans certains milieux religieux où on fait croire à ceux qui ne sont pas encore mariés qu'ils sont maudits. Non, ce n'est pas du tout vrai. C'est vrai qu'il y a des cas, des familles où les gens ne vont pas en mariage parce que ce sont des liens de malédiction. Mais on ne doit pas généraliser. Quelqu'un qui n'est pas marié ne veut pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il est maudit. Ça peut être que ce n'est pas encore le temps de Dieu pour lui. Ou bien, ça peut être quelqu'un qui a reçu le don du célibat. Ou bien, ça peut être quelqu'un qui se met volontairement à part pour le Seigneur, pour le servir. Selon ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, qu'il y a certains qui deviennent eunuques à cause du royaume des cieux. C'est pour dire que quoi, de façon équilibrée, lorsqu'on parle de mariage, il faut prêcher tout ce que la Bible dit avant de laisser aux hommes le choix de choisir ce qui est bien pour eux. Donc, très chers auditeurs, très chères auditrices, Sachez que parmi les hommes sur cette terre, il y a certains qui ont reçu de Dieu le don du célibat. C'est-à-dire, ils vont passer toute leur vie sans penser au mariage, sans penser à se marier. Et il y a certains qui vont décider volontairement de ne pas se marier juste pour se consacrer au Seigneur pour le servir. Il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ a dit aussi qu'il y a certains qui sont devenus eunuques par la main des hommes. Oui, parce que les hommes aussi peuvent décider de faire de certaines personnes des eunuques. Par exemple, nous connaissons vulgairement ce qu'on appelle, le nom m'échappe un peu. Ils sont en général les gardes-corps des hautes personnalités. Oui, les castrés, bon. En fait, ils se sont castrés peut-être pour devenir des gardes-corps des hautes personnalités de ce monde. Voilà les raisons qui les poussent à faire cela. Par contre, il y a certains qui peuvent refuser de se marier volontairement, même sans être castrés, tout simplement pour servir le Seigneur. Et sachez aussi que si Dieu vous a donné le don du célibat, vous serez plus heureux en vivant sans vous marier. Parce que si le plan parfait de Dieu pour vous, c'était que vous ne vous mariez point, s'il arrive que malgré cela vous vous engagez sur le chemin du mariage, il y a fort à parier que vous allez être très malheureux dans votre mariage. Parce que le plan parfait de Dieu pour vous, c'était que vous vivez sans vous marier, en vous consacrant et en le servant de tout votre cœur, esprit, âme et corps. Oui, c'est bien de prêcher toutes ces choses pour être équilibré, afin que chacun puisse maintenant, à partir de cela, choisir ce qui lui convient le mieux. Et bien entendu, lorsque l'on parle de mariage, selon la Bible, le mariage c'est entre homme et femme. Parce que nous vivons dans un monde pervers, corrompu, où nous voyons déjà dans beaucoup de pays, même dans des mairies, même dans certaines églises, où on célèbre des mariages entre homme et homme, ou femme et femme. Ce sont des abominations terribles aux yeux de Dieu. La Bible est claire et formelle, les homosexuels n'entreront point dans le royaume des cieux. Et c'était même une abomination en Israël. Oui, le mariage, c'est entre homme et femme. Nous allons lire également un chapitre qui va nous beaucoup nous instruire en ce qui concerne le mariage. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du premier verset. Frère Yannick, tu vas chercher cette portion de Sainte Écriture et tu vas lire pour nous tous. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du premier verset.
Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de la même envers son mari.
Avant de continuer, frère Yannick, au verset 2, voici ce que l'apôtre Paul va dire. D'abord, à partir du premier verset, il dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. L'apôtre Paul commence d'abord en disant que, selon lui, il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes, donc de ne même pas du tout se marier. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et nous allons comprendre pourquoi il va dire cela plus bas. Et maintenant, tu peux lire à partir du verset 7, frère Yannick. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7.
Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre.
Voilà, il dit bien que je voudrais que tous les hommes soient comme moi, c'est-à-dire célibataires, parce qu'il faut rappeler que l'apôtre Paul ne s'était pas marié. Il dit qu'il voudrait que tous les hommes soient comme lui, mais il nuance en disant chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc lui, c'était un don qu'il avait reçu de Dieu, ce don de célibat, de pouvoir vivre et servir Dieu sans se marier. C'était un don. Ceci revient à dire que lorsqu'une doctrine veut à tout prix que ceux qui voudraient entrer dans le sacerdoce ne se marient pas, c'est dangereux, ça devient une fausse doctrine. On n'est pas obligé de ne pas se marier juste parce qu'on va servir Dieu. Ça ne doit pas être un dogme ni une loi. Si c'est un don de Dieu, tant mieux. Si c'est un engagement volontaire, tant mieux. Et verset 8.
À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Et continue.
Oui, verset 9.
Mais s'ils manquent de maîtrise, d'eux-mêmes qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler.
Amen. L'apôtre Paul va continuer en disant ici que à ceux qui ne sont pas mariés ou aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, c'est-à-dire célibataire. Il nuance encore en disant, mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car vaut mieux se marier que de brûler. Oui, c'est très très important parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne vont pas se marier, peut-être parce qu'ils veulent vraiment se consacrer et servir Dieu, mais malheureusement, on les retrouve dans les quartiers, dans les coins, pendant la nuit, courir après les jeunes filles, ou après un certain temps, on comprend seulement qu'ils ont fait des enfants par-ci, par-là, et pourtant, de façon officielle, publiquement, ils disent qu'ils ne se sont pas mariés, qu'ils ne vont pas se marier, mais dans l'ombre, ils font beaucoup d'autres choses qui ne sont même pas bonnes à dire. Donc là, c'est l'hypocrisie totale. La Bible nous dit que si quelqu'un ne peut pas se maîtriser, qu'il se marie, ce n'est pas un péché. Oui, je fais comme ça un clin d'œil à certaines personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas du tout se marier parce qu'ils vont servir Dieu sans se marier, mais qui, dans le noir, en cachette, font beaucoup de choses, courent même après les femmes des gens. Non, là, c'est l'hypocrisie totale et la Bible dit que les hypocrites n'entreront pas au ciel. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Amen.
Nous pouvons rester dans ce chapitre qui est très, très intéressant. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. Et à partir du verset 25, maintenant, frère Yannick, tu vas lire jusqu'au verset 35 ou 34.
Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as pas point péché. Et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que j'ai dit, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Parole du Seigneur.
Amen. Dans cette portion de Saint-Écriture que nous venons de lire, nous voyons que l'apôtre Paul essaie de justifier pourquoi il conseillait aux gens d'être comme lui, de ne pas se marier. Bien que ce n'était pas une loi, une doctrine, il essaie de donner des raisons. Et ces raisons sont très très importantes, même pour les mariés. Il va dire que ceux qui se marient auront des tribulations ou des souffrances. Ceci revient à dire que le mariage a des tribulations, a des souffrances. Contrairement à ce que certains pourraient penser ou enseigner, le mariage ce n'est pas seulement le bonbon, le chocolat ou le sucre. C'est souvent aussi très amer, même plus que la quinine. Et ce que l'apôtre Paul essaie d'exposer ici. Il dit bien que le mariage amène des tribulations. Oui. Et c'est quelque chose qu'on doit faire savoir à ceux qui se marient. on doit prier le Seigneur pour avoir le moins de problèmes possible dans notre foyer. Mais, puisque la parole de Dieu ne peut pas mentir, le mariage a des tribulations ou des souffrances, des épreuves. Que si vous ne vous étiez pas marié, vous ne devez pas connaître cela. C'est très très important de le savoir et de se préparer en conséquence. Donc vous qui êtes en train de vous préparer à entrer dans le mariage, si vous vous rapprochez de ceux qui sont déjà mariés, vous diront qu'ils ont vraiment des problèmes, que c'est par la grâce de Dieu qu'ils surmontent leurs problèmes au quotidien. Et ce que l'apôtre Paul dit ici, les tribulations. Donc il ne faut pas que lorsque vous allez vous marier, dès qu'il y aura un petit problème, vous pensez seulement à vous séparer ou au divorce. Non, préparez-vous déjà à affronter tout cela. Si ce n'est pas encore arrivé, ça arrivera certainement. Parce que la parole de Dieu ne peut pas mentir.
Amen.
Et déjà, je tiens comme cela à bénir d'une façon spéciale et à rendre hommage à ceux-là qui se sont mariés, qui ont déjà fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de mariage et qui sont toujours ensemble. Je crois que ces personnes méritent un coup de chapeau et ils méritent vraiment les hommages même de la nation et ils méritent vraiment que Dieu les bénisse abondamment.
Amen.
Parce que ce n'est pas du tout facile. Beaucoup se marient et en 2 ans, tout se gâte. Il y a très peu de gens qui font 5 ans, 7 ans, 10 ans dans le mariage. Alors ceux qui ont traversé ces étapes, ils méritent vraiment les félicitations, les encouragements même de toute la nation. Ça veut dire qu'ils ont su se supporter et affronter toutes sortes d'épreuves. Et ils ont décidé malgré tout de s'aimer et de continuer à vivre ensemble malgré les difficultés, les épreuves, les obstacles, les tribulations que le mariage entraîne, les incompréhensions et tout ce qu'il y a tout autour. Je n'oublierai jamais cette histoire d'un homme qu'on avait invité sur un plateau de télé. Parce qu'il était en train de célébrer, si elle ne me trompe pas, peut-être 50 ans de mariage avec sa femme. En tout cas, c'était en Angleterre, et il était l'un des rares couples en Angleterre qui avait vécu longtemps dans le lien du mariage. Et naturellement, on les a invités pour les poser beaucoup de questions, pour savoir quel était leur secret. Comment ça s'est passé? Et ils essayaient de répondre à toutes ces questions. Et à un moment donné, on a posé la question, à savoir si ne leur est pas arrivé un jour de penser à se séparer, à divorcer durant tout ce temps, parce que vivre quand même 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et plus même, ce n'est pas quand même donné. Est-ce qu'ils n'ont jamais pensé à se divorcer ou à se séparer? Surtout quand il y avait des problèmes. Ils ont dit que se séparer, c'était rien. Parfois, il les arrivait de penser même au meurtre. Imaginez quelqu'un qui, parfois, pense même à éliminer carrément son partenaire à cause des problèmes qu'ils ont. Pour dire que s'ils ont vécu plus de 50 ans ensemble, ce n'est pas toujours parce que les choses se passaient très bien. Ce n'était pas parce que c'était le chocolat et le bonbon tous les jours. Il y avait aussi le ndolet et la quinine dedans.
Amen.
Mais ils ont pu quand même supporter. Que le Seigneur bénisse vraiment les anciens, ceux qui sont anciens dans ce domaine et qui se sont supportés et qui continuent à se supporter. Je crois que ce sont même des modèles pour notre société. Oui, parce que je crois fermement que ce n'est pas toujours donné aux mariés de se supporter assez longtemps.
Amen.
Oui, ce n'est pas toujours donné à n'importe qui. Donc vous qui nous écoutez, où que vous soyez, vous, chers papas, chers mamans, qui avez vécu ensemble 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et plus, vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vous soyez vraiment des exemples et des modèles pour les jeunes gens qui se sont mariés et qui vont se marier dans les jours à venir.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Vous écoutez l'heure de la vérité, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. S'il y a ce message de Popina, Kamga Popina nous envoie de Bayangam, qui voudrait que l'on prie pour elle, afin qu'elle ait son probatoire. Oui, nous allons prier. Nous avons reçu ce message, c'est pour la rassurer que ce message est arrivé. Vous écoutez l'heure de la vérité et nous sommes en train de parler du mariage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Avant de continuer, je tiens à donner quelques conseils pratiques concernant le mariage parce que j'estime que c'est très très important pour ne pas oublier ces petits conseils pratiques. Je voudrais inviter les gens à être très très vigilants et à éviter la manipulation parce que dans beaucoup de milieux religieux, allô? Je disais tantôt que dans beaucoup de milieux religieux, il y a des fausses prophéties ou des mariages arrangés. Oui, dans beaucoup de milieux religieux, malheureusement, on trouve cela. Des mariages arrangés, des fausses prophéties. Imaginez par exemple que quelqu'un vient dire que le Seigneur m'a dit que telle est ta femme ou tel est ton mari. Vous n'allez pas vous fier à tout cela. Si le Seigneur dit à quelqu'un que vous êtes la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un, Dieu, il faudra que lui-même vous parle aussi parce que c'est quand même une affaire qui vous concerne en première position. Parce qu'il y a eu des cas où des gens se sont mariés tout simplement parce que quelqu'un a dit, Dieu m'a dit que Dieu m'a montré que telle est ta femme, telle est ton mari. Et on a arrangé les choses. Allô? Allô? Oui, allô? La connexion n'était pas du tout bonne. Je disais tantôt que nous avons vu dans beaucoup de milieux religieux des mariages arrangés. Parfois des gens qui sont bien placés dans la religion organisent ou bien manipulent, fabriquent des choses parce que tel voudrait que son fils se marie avec la fille de tel ou vice versa. On arrange les choses, on manipule et les enfants se retrouvent devant un fait accompli sans vraiment être d'accord dans le fond de leur cœur. Mais pour honorer les parents, ils acceptent quand même de se marier, c'est dangereux. Allô? Allô?
Oui, allô?
Oui?
Je suis juste disant, parce que vous voulez que vous priez pour ma grand-sœur qui a eu des problèmes avec son mari.
Oui, comment elle s'appelle?
Elle s'appelle Bébou Pélagie.
Pélagie qui a des problèmes avec son mari?
Oui, pasteur.
Est-ce que vous pouvez un peu nous dire en bref le problème?
Non, elle a eu des problèmes avec son mari a tout saccagé, détruit tout. Parce que tout est souvent la femme de coiffure.
Mm-hmm.
Son mari a tout détruit le casque.
Ok, c'est noté, après nous allons prier. Je disais tantôt que nous allons faire attention aux manipulations et fausses prophéties, et aussi à l'imitation et à la pression, parce que tout cela n'est pas du tout bien quand il s'agit du mariage. Le mariage c'est une entreprise très sérieuse où on ne doit pas jouer ou ni jongler ni manipuler les choses, au risque que cela retourne très mal contre nous. Par exemple, si vous vous mariez parce que vous voulez imiter tel, parce qu'il s'est aussi marié, ce n'est pas du tout bien. Si vous vous mariez tout simplement parce qu'on a mis la pression sur vous, ce n'est pas du tout bien. Et en passant aussi, je voudrais donner un petit conseil à ceux qui sont chrétiens. Oui, ceux qui sont chrétiens, qui veulent se marier. La Bible est claire et formelle. Du moment où Dieu a déjà ouvert vos yeux, vous a accordé la grâce de connaître la vérité, vous deviez chercher pour conjoint ou conjointe un chrétien ou une chrétienne, du moment où vous êtes déjà chrétien. Si vous n'êtes pas encore chrétien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous marier avec qui vous voulez. Si vous êtes sûr que vous aimez cette personne et que cette personne vous aime. Mais si vous êtes devenu vraiment un chrétien, quelqu'un qui craint Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui veut vivre dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, selon les saintes écritures, il est conseillé, selon la parole de Dieu, de vous marier à quelqu'un qui craint également Dieu comme vous. Nous pouvons lire, par exemple, dans notre texte de tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 7, qui parle du mariage. Le verset 39, dans sa dernière partie, il va nous dire, frère Yannick, tu vas lire.
Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur.
Amen. La parole de Dieu est en train de s'adresser ici aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Si vous voulez vous marier, même si vous avez perdu votre mari ou votre femme, la Bible dit que vous êtes libre de vous marier à qui vous voulez. Mais la Bible précise seulement que ce soit dans le Seigneur.
Amen.
C'est très très important. Parce que si vous êtes déjà dans le Seigneur et vous prenez le risque d'aller épouser quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, vous êtes en train vraiment d'envoyer vos mains dans le feu qui vont vous brûler. Parce que si vous craignez déjà Dieu et que malgré tout vous engagez à prendre quelqu'un qui ne craint pas Dieu, vous aurez le problème tout le temps. Je vais prendre un exemple. Imaginez que vous vous levez, par exemple, un matin, vous dites que je vais aller à l'assemblée pour prier. Puisque la personne ne craint pas Dieu, la personne dit, bon, je vais aller voir le marabout. Je m'en vais chez mon marabout pour mes problèmes. Pendant que vous voulez aller plutôt devant Dieu, prier ce grand Dieu, votre Dieu que vous servez, afin qu'il agisse pour vous, mais votre partenaire vous dit, non, je vais plutôt aller voir tel féticheur ou tel marabout. Parce qu'il ne craint pas Dieu comme vous, vous voyez. Et 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 au verset 16, va également nous dire quelque chose dans ce sens. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 au verset 16.
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Car c'est la parole du Seigneur.
Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? La Bible est en train de parler ici de deux catégories de personnes. Le chrétien et le non-chrétien. Dieu et Satan. Le croyant et le non-croyant. Le fidèle et l'infidèle. Donc d'un côté, il y a le chrétien, le fidèle, le croyant, quelqu'un qui craint Dieu. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est infidèle, qui est incroyant, qui ne craint pas Dieu. Donc du moment où Dieu vous a fait grâce, en vous donnant de croire en lui, de le craindre, de le connaître, si vous voulez vous marier, cherchez votre partenaire dans la maison de Dieu. Cherchez votre partenaire au milieu des enfants de Dieu. Parce que si vous avez pour partenaire quelqu'un qui craint Dieu comme vous, vos problèmes seront limités. Ne serait-ce qu'à cause de la crainte de Dieu que vous avez et que cette personne a. Ça contribue déjà à limiter les dégâts et les problèmes que les gens peuvent rencontrer dans leur foyer. Donc nous voyons que la Bible est suffisamment claire là-dessus. Parce que nous avons vu des cas où des chrétiens sincères, engagés, ont pris le risque d'aller épouser quelqu'un qui ne craint pas Dieu comme eux. Et c'était la catastrophe. Certains ont même dit que après je vais le convertir. Non, il faut d'abord le convertir, après vous vous mariez. Comment est-ce que vous pouvez mettre les charrues avant le bœuf? Oui, qu'après non, il va croire. Non, il faut qu'il croie d'abord et après vous vous mariez. Il ne faut pas quand même jouer avec le feu comme ça. Et je disais tantôt que j'étais en train de donner quelques conseils pratiques avant de tomber sur le choix du conjoint pour ceux qui sont vraiment déjà chrétiens. Oui. Et comme conseil pratique également, nous avons vu aussi des cas où certaines personnes se sont fiancées, tout au niveau de la famille était clair, propre. Les familles attendaient tout simplement le jour que l'homme doit décider de façon officielle pour la célébration. Mais les choses retardent tout simplement parce que l'homme n'a pas suffisamment de moyens pour faire une grande fête. Très chers amis, vous devez faire la fête selon vos moyens. Il ne faut pas, parce que vous avez vu quelqu'un mettre beaucoup d'argent en jeu pour son mariage et que vous voulez l'imiter. Si quelqu'un a suffisamment de moyens pour investir dans son mariage, tant mieux. Mais vous ne devez pas l'imiter. Faites avec les moyens que vous avez. D'ailleurs, étant donné que après le mariage, la vie va continuer. C'est pour dire déjà que ce n'est pas bien de s'endetter pour se marier. Et parce que ce sont des cas, lorsque j'étais encore photographe et caméraman, ce sont des cas que j'ai vécu, des personnes qui ont fait des grandes fêtes. Ils ont dépensé parfois même des millions pour se marier, mais après c'était la galère totale. Imaginez-vous, certaines personnes se sont mariées, mais ils n'avaient pas de photos de mariage chez eux, parce qu'ils n'avaient même pas de l'argent pour laver et récupérer ces photos. C'est quand même regrettable. Oui, lorsque j'étais photographe et caméraman, jusqu'à présent, j'ai même encore certains clichés chez moi parce que certaines personnes sont mariées, à part la suite, n'ont pas eu de l'argent pour pouvoir les laver. Alors qu'ils ont investi tellement d'argent dans leur mariage. Ils ont fait des choses au-delà de leurs moyens. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Lorsque vous vous mariez, dites-vous que c'est une fête. C'est très bon de faire la fête. Mais pensez aussi à l'après-mariage. Parce que après le mariage, la vie continue. Et si vous n'êtes pas sage, vous risquerez vraiment vivre dans la galère. Ce qui n'est pas bien pour les nouveaux mariés. Il faut quand même qu'après votre mariage, vous soyez à l'aise en tant que jeune marié. Que vous ne mouriez pas de faim. Alors que vous avez tellement dépensé, ce n'est pas du tout bien. Il ne faut pas non plus qu'après votre mariage, vous passez votre vie à rembourser les dettes que vous avez contractées pour faire une très grande fête. Faire une grande fête, ce n'est pas une mauvaise chose. Si quelqu'un a suffisamment d'argent, même pour nourrir toute la République, ce n'est pas un problème. Mais n'imitez pas ceux-là qui ont suffisamment d'argent pour faire des fêtes pompeuses. Faites selon les moyens que Dieu vous a donnés. Le peu que vous avez, Dieu lui-même sait que c'est ce que vous avez. Faites avec, priez et Dieu bénira. Nous avons vu Jésus a pu nourrir des multitudes juste avec quelques pains et quelques poissons. Donc le peu que vous avez, Dieu peut bénir de telle sorte que ceux qui viendront puissent vraiment manger et être à l'aise parce que c'est Dieu qui bénit. Et c'était également très très important de rappeler toutes ces choses. Vous écoutez toujours l'heure de la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous allons maintenant nous tourner vers le plus grand mariage qui aura lieu dans tout l'univers. Beaucoup de gens ne savent pas. Un jour, le plus grand mariage de l'univers va se célébrer. Et vous ne deviez pas rater ce grand mariage. Ratez tous les mariages de la terre, mais ne ratez pas ce mariage. Sans plus tarder, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Frère Yannick, tu peux lire pour nous tous.
Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, parole du Seigneur.
Amen. L'apôtre Paul ici dit qu'il a fiancé les chrétiens, ou bien les Corinthiens en particulier, à Christ, qui sont comme la fiancée du Christ. Et son désir, c'était quoi? Que cette fiancée soit comme une vierge pure. Cette vierge qui ne doit pas se souiller. C'est pour cette raison que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est appelée à se purifier tous les jours. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église ici, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un système religieux, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont reçu Christ, qui sont habités par son esprit et qui s'efforcent de marcher selon sa parole. Cet ensemble forme l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui est en même temps son épouse, qui est en même temps sa fiancée et qui doit se préserver pure. C'est pour cette raison que nous avons dénoncé les fausses doctrines, parce que les fausses doctrines qui sont enseignées et pratiquées dans l'Église du Seigneur souillent l'Église du Seigneur Jésus et ne la qualifie pas pour l'enlèvement et surtout à ce grand mariage qui aura lieu au ciel. Donc l'Église en tant que fiancée de Christ, un jour, il y aura une grande fête qui va se célébrer au ciel, les noces de l'agneau. Donc vous qui êtes chrétien, sachez que vous êtes l'épouse, la future épouse, ou bien la fiancée de Christ. Et la Bible vous encourage à vous préserver pur, à vous séparer de tout ce qui est comme souillure, que ce soit dans les doctrines, dans les enseignements, que ce soit dans les choses que nous vivons au quotidien, nous sommes appelés à nous purifier et à nous sanctifier. Parce que Christ, notre époux, revient chercher une épouse qui est pure, sans tache ni ride, sainte, irréprochable. D'après Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 25, et dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 4 au verset 9, nous allons lire ceci. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 4 au verset 9.
Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu, assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une grande foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, est ancré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, paroles du Seigneur.
Amen. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 4, verset 9. La Bible nous dit au verset 9, l'ange dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Donc au ciel, il y aura une grande fête. Les noces de l'agneau, où le Seigneur Jésus-Christ va célébrer une grande fête avec son épouse qui est l'Église. Parce que Jésus-Christ a racheté l'Église au prix de sa vie, en versant son sang à la croix. Et un jour, il va faire une grande fête. Une très grande fête. Et la Bible dit, heureux ceux qui vont prendre part à cette noce. Alors vous qui nous écoutez, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous ferez partie de cela? Est-ce que vous ferez partie de ceux-là qui vont participer à cette grande fête, les noces de l'agneau dans les cieux? Les hommes sur la terre font des grandes fêtes tous les jours. Imaginez un peu Dieu dans les cieux, organisant une grande fête. Imaginez. Je vous invite particulièrement à ne pas manquer. Et pour ne pas manquer, il faut faire juste une petite chose. Confesser ses péchés à Dieu, reconnaître qu'on est un pécheur ou une pécheresse, et inviter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de ce moment, non seulement vos péchés seront effacés, parce que Jésus a payé le prix de vos péchés à la croix en versant son sang, également, vous ferez partie de l'Église du Seigneur Jésus, qui est en même temps son épouse. Et un jour, vous êtes sûr d'être à cette grande fête, les noces de l'agneau, avec son épouse qui est l'Église. Donc, très chers auditeurs, très chères auditrices, vous ne deviez pas rater cela. Je sais que beaucoup aiment des grandes fêtes où l'on mange, on boit, mais au ciel, la Bible nous dit que ce que Dieu nous a réservé, l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu. Ce n'est même pas encore monté dans le cœur de l'homme. Imaginez, la Bible dit que c'est ce que Dieu nous réserve. C'était pour vous encourager, vous qui hésitez encore à vous donner au Seigneur Jésus, à le faire le plus tôt possible.
Amen.
Parce que vous ne savez pas ce que vous allez rater si vous refusez de vous donner au Seigneur Jésus. Non seulement vous n'allez pas participer à cette grande fête, mais après le jugement dernier, vous serez de l'autre côté. Il est à temps de feu, en train de souffrir, là où seront jetés le diable, les démons, les sorciers, les méchants. Mais ce n'est pas votre place. Mais si vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus, malheureusement, vous serez obligé d'y être, puisqu'il n'y a que deux places. Le paradis et le temps à temps de feu. Et c'est à vous de choisir maintenant, pendant qu'il est encore temps. Vous écoutez l'heure de la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. De moment à l'autre, nous allons nous séparer. Avant de nous séparer, bien entendu, nous allons prier pour ceux-là qui ont envoyé des sujets de prière. Je voudrais également donner ce petit conseil pratique aux mariés et à ceux qui conseillent les mariés. Vous qui êtes mariés, lorsque vous avez des problèmes, méfiez-vous. N'allez pas confier vos problèmes à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens à qui, lorsque vous vous confiez, au lieu de vous aider, ils vous détruisent carrément. Oui, vous ne devez pas vous confier à n'importe qui. Sachez qu'autour de vous, il y a des jaloux de vous et de votre mariage. Et ils sont prêts à sauter sur une occasion pour pouvoir vous séparer. Et si par malheur vous venez vers eux pour soumettre vos problèmes, ils vont faire semblant de vous aider, mais ils vont plutôt vous détruire avec des mauvais conseils, avec des conseils toxiques. Oui, c'est très très important parce que certains mariages se sont gâtés tout simplement à cause des mauvais conseils. Oui, à cause des mauvais conseils. Et lorsque une affaire de couple est devant quelqu'un, en réalité, si cette personne veut vraiment rendre service à ce couple, il doit appeler les deux concernés et écouter chaque version. Et c'est après avoir écouté attentivement chaque partenaire qu'il pourra dire quelque chose. Parce que parfois, en général, lorsque quelqu'un vient se plaindre, on prend seulement la version de la personne et c'est à partir de cette version qu'on dit des choses qui parfois ne sont pas forcément vérifiées ni vraies. Parce que dans des problèmes, chacun a sa part de responsabilité. Et c'est toujours bon d'avoir les deux en face avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Et aussi, aux parents, il y a certains parents qui envoient les filles en mariage en espérant que les filles étant en mariage va leur ramener beaucoup de l'argent. Et lorsque ce n'est pas le cas, ils commencent à tout faire pour que le mariage se gâte. Ça aussi, ce n'est pas du tout bien. Vous devez envoyer votre fille en mariage tout simplement parce que vous avez vu que c'était la volonté de Dieu que votre fille se marie. Et vous devez lui souhaiter tout le bonheur possible au monde. Pas pour qu'elle aille vous envoyer de l'argent. Si elle peut vous envoyer de l'argent ou vous aider de temps en temps, ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas pour cela que vous allez envoyer votre fille en mariage.
Amen.
Si vous voulez que votre fille aille chercher de l'argent, vous n'avez pas besoin de l'envoyer en mariage. Vous pouvez la garder aussi longtemps que vous le voulez en lui donnant d'aller travailler. En travaillant, elle peut gagner suffisamment d'argent pour vous donner. Mais du moment où vous l'envoyez en mariage, elle n'a pas fondé son foyer. Si elle peut vous aider, tant mieux. Mais si elle ne vous aide pas, ne la maudissez pas, ne manipulez pas les choses pour que le mariage se gâte. Oui, parce que j'ai eu des cas vraiment qui m'ont touché. Un papa qui un jour a dit à sa fille qu'elle ne se considère pas comme étant mariée. Elle ne s'est pas encore mariée. Alors que c'est lui-même qui a envoyé sa fille en mariage, c'est lui-même qui a signé l'acte de mariage. Mais parce que son enfant ne l'envoyait pas de l'argent comme il espérait, il va jusqu'à dire à sa fille qu'elle n'est pas encore mariée. Et vous pouvez imaginer les conséquences dans le foyer. Ce sont des choses vraiment terribles qui ne doivent plus se reproduire. En tout cas, je prie pour vous tous qui nous écoutez que cela ne soit pas votre partage au nom du Seigneur Jésus.
Amen.
Parce que beaucoup de mariages sont gâtés à cause des conseils toxiques, que ce soit venant des amis, des proches ou même des parents. Que celui qui a vraiment des oreilles pour entendre, entende. Comme promis, nous allons prier puisque le temps est contre nous. Seigneur Jésus, nous te bénissons infiniment pour ce temps que nous avons passé dans ta sainte parole. Merci Père, merci particulièrement pour ces auditeurs qui ont envoyé des messages parce qu'ils ont des préoccupations, des problèmes. Nous pensons particulièrement même à Pélagie qui a des problèmes avec son mari. Tu connais les détails de ce problème. Nous ne pouvons que t'implorer afin que dans ta bonté infinie, toi qui ne voudrais pas que les maris puissent se séparer, que tu puisses intervenir puissamment. Toi qui as la clé de toutes choses entre tes saintes mains, la solution de tous les problèmes, Seigneur Jésus, manifeste-toi. Toi qui n'as pas du tout changé et glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, Poupina qui voudrait avoir son probatoire cette année, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour elle, ô Dieu. Accorde-lui la grâce, particulièrement de bien apprendre ses leçons, et qu'au moment venu, ô Dieu puisse composer et passer avec brio. Seigneur, ouvre sa sagesse, son intelligence, et que ta faveur soit son partage, et que cette année même, elle puisse avoir son probatoire, et que Seigneur Jésus, toute la gloire te revienne. Seigneur, nous te présentons également tous ceux-là qui ont des différents problèmes. Et qui sont en train de te regarder parce qu'ils ont essayé partout, que ce soit ceux qui sont malades, qui sont partis dans les hôpitaux, il n'y a pas eu de solution. Ils sont partis chez les féticheurs, les marabouts, il n'y a pas eu de solution. Seigneur Jésus, c'est maintenant ton tour de te lever et d'agir, parce que quand il n'y a plus d'espoir, c'est là où tu te lèves pour montrer que tu es Dieu. Seigneur, lève-toi, agis dans la vie de ces malades, que ce soit dans les hôpitaux, dans les maisons. Agis également dans la vie de ceux-là qui sont dans les prisons. Agis dans la vie de ceux-là. Ô Dieu, qui voudrait que tu fasses quelque chose de miraculeux pour eux. Seigneur, fais-le et que la gloire te revienne.
Amen.
Seigneur Jésus, nous te présentons notre nation. Tu connais cette nation dans les moindres détails. Tu connais les crimes, les abominations, les mauvaises choses qui se pratiquent dans cette nation. Nous te demandons d'abord pardon parce que, à vrai dire, si tu devais juger cette nation en fonction de ce qu'elle commet comme péché, nous serons vraiment dans les problèmes. Mais ta grâce a surabondé jusqu'à cette heure-ci. Et nous pouvons te dire merci et exprimer notre reconnaissance.
Amen.
Nous voulons te supplier afin que cette grâce puisse continuer à surabonder. Autour de nous, Seigneur, c'est la guerre, l'instabilité totale. Dans d'autres nations même, c'est la famine. Mais jusqu'à présent, tu nous épargnes de tous ces maux. Pas parce que nous sommes les plus justes, les plus forts, les plus intelligents, mais à cause de ta grâce. Que cette grâce continue à surabonder. Ô Dieu, nous te consacrons notre nation. Nous te consacrons nos dirigeants. Nous te consacrons cette ville. Nous te consacrons ce département. Nous te consacrons les orphelins. Nous te consacrons les veuves. Nous te consacrons les laissés pour compte. Seigneur, lève-toi, agis dans les cœurs, dans les vies. Et surtout, accorde la grâce à ceux-là qui ne te connaissent pas de pouvoir te connaître en tant que Dieu sauveur.
Amen.
Que ce qui peut retenir les gens en captivité de quelque manière que ce soit, soit brisé complètement, soit détruit complètement, afin que les gens puissent être libres de venir à toi et de se donner entièrement à toi. Parce que tous ceux qui se confient en toi ne pourront jamais être déçus. Seigneur, tu as dit que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu es fidèle, vivant, tout puissant, pour pouvoir agir même au-delà de nos prières. Et toute la gloire, les honneurs, les actions de grâce vont te revenir, Seigneur Jésus, à toi et rien que à toi seul. Amen.
Amen.
Très chers visiteurs, très chères visitrices, par la grâce de Dieu, nous sommes à la fin de notre émission de ce jour, compte tenu et du temps qui nous est imparti. Nous allons nous retrouver prochainement sur cette même antenne, à la même heure. Soyez abondamment bénis. Une fois de plus, c'est que le Seigneur bénisse cette radio. Et je ne peux pas lâcher ce micro, une fois de plus, comme d'habitude, sans penser à mes enfants. Oui. Et je vais aussi prier pour eux, que tout ce que l'ennemi va fomenter contre eux soit nul et sans effet au nom du Seigneur Jésus.
Amen.
Et oui, que tout ce que les hommes ou les forces des ténèbres vont essayer de faire pour les nuls, de quelque manière que ce soit, qu'ils tombent avant d'avoir exécuté leurs plans au nom du Seigneur Jésus.
Amen.
Et je bénis également ma très chère épouse Josie, que j'aime tendrement. Josie, que le Seigneur te bénisse abondamment et te fortifie. Adolphe et Jemima qui vont se marier d'ici 2 jours, 3 jours. Que le Seigneur les bénisse abondamment et les fortifie et pourvoie à tous les moyens dont ils auront besoin afin que tout se passe dans les très bonnes conditions. Et vous tous, où que vous soyez, soyez également abondamment bénis, particulièrement vous qui êtes en train de vous préparer à vous marier et vous qui êtes mariés qui avez de sérieux problèmes. Que le Seigneur se souvienne de vous et vous aide à surmonter toutes vos difficultés et tous vos problèmes, afin que cela serve de témoignage, oui, pour ceux qui vous entourent. Frère Yannick, sois béni.
Amen.
Nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Est-ce que tu as un dernier mot avant que nous nous séparons?
Oui, je voudrais saluer tous ceux-là qui nous ont écoutés. Je les bénis et je les exhorte de ne pas vraiment être des auditeurs oublieux, de mettre vraiment en pratique tout ce qu'ils écoutent ici. Et je salue aussi ma maman qui est scotchée avec tous mes petits frères. Que le Seigneur vraiment les bénisse. Et tous ceux qui nous écoutent depuis le champ. Sans oublier papa Roger qui nous écoute depuis Bichois. Que le Seigneur les bénisse grandement. Amen.
Amen. Bien entendu, que le Seigneur bénisse toutes nos autorités qui nous dirigent dans cette ville, Madame le maire, Monsieur le préfet, le commandant, toutes ces autorités haut placées qui s'efforcent de faire au mieux leur travail, que le Seigneur les bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse abondamment Madame Idekare Chunga et toute sa maison. À bientôt, et que les honneurs, la louange, l'élévation, les actions de grâce, les acclamations reviennent à celui-là seul qui est digne de les recevoir dans les cieux et sur la terre, maintenant et pour des siècles et des siècles, l'alpha et l'oméga, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00 237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.